Bonsoir, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour cette rencontre débat, troisième volet de rencontre autour de l'exposition Gaston Castel. Merci aussi aux archives du département Gaston Defer et à sa directrice Madame Urge de nous accueillir. Troisième volet, je disais, après l'architecture funéraire, l'architecture sportive aujourd'hui, c'est d'architecture carcérale dont il va s'agir. Évidemment, une architecture sous forte contrainte pour l'architecte, contrainte néanmoins bien modeste par rapport à la contrainte que cette architecture fait elle-même subir à ses usagers. Tout ça pour dire qu'évidemment, cette discussion n'est pas anecdotique et ne concerne pas uniquement l'architecture, mais que nous, tout au long de cette discussion, nous aurons à cœur de ne pas négliger l'élément humain qui est évidemment essentiel quand on parle de détention et d'architecture pénitentiaire. Pour évoquer cette architecture, comment elle a traversé notre histoire aussi, on va avoir le plaisir de pouvoir écouter Philippe Artière, qui est historien, dont les domaines de recherche abordent ou ont abordé l'histoire des prisons au XIXe et XXe siècle, un croisement avec l'anthropologie autour des écritures ordinaires. Alors Philippe, je pense que c'est les écritures qui sont non littéraires, c'est ça, les écritures ordinaires. Et puis un travail aussi sur le philosophe Michel Foucault, trois champs de réflexion que nous allons mettre à contribution tout au long de ce débat, sans doute. Juste à côté de moi, René Frény, qui est écrivain, qui est auteur de nombreux romans dans lesquels il met parfois en scène le milieu où il a cultivé quelques amitiés, mais surtout la prison où il fut aussi lui-même jeune homme incarcéré pour avoir déserté. Et puis Raphaël Papadia, qui est architecte, qui travaille dans l'agence Architecture Studio, assez grosse agence parisienne, et qui a récemment réalisé plusieurs établissements pénitentiaires à Liancourt ou bien à Saint-Denis de la Réunion. On aura donc l'occasion de voir au travers de son expérience comment est-ce qu'aujourd'hui ces maisons de détention renouvellent l'idée de la prison. Peut-être quelques mots préliminaires pour poser cette discussion, rappeler que la place de la prison dans l'arsenal répressif a évolué au cours des âges, au cours de l'histoire, une place qui est aujourd'hui centrale, sans mauvais jeu de mots, mais qui ne l'a pas forcément toujours été. Longtemps, en effet, la prison n'a été que le préalable à un châtiment corporel. Et on est passé ainsi, au fil de l'histoire, et notamment au travers de la Révolution, d'un régime de la détention comme préalable au supplice, à une modalité quasi unique de la répression pénale des crimes et délits aujourd'hui. Ainsi, au XIXe siècle, passé les affres de la terreur et la frénésie de la guillotine, la Révolution, en s'institutionnalisant, développe l'idée d'une rationalisation de la peine qui est fondée désormais sur la loi de la République et non plus sur l'arbitraire, sur le fait du prince, enfin, censément. De cette rationalisation de la justice pénale naît une conception moderne de la prison. Je vous propose qu'on commence cette discussion avec peut-être une petite perspective historique autour de l'architecture carcérale, en compagnie de Philippe Artière. On pourrait peut-être, Philippe, si vous voulez bien, commencer par un état des lieux des prisons au XVIIIe siècle, à cette période de la Révolution où s'invente le concept moderne de prison.
Effectivement, la prison est paradoxalement un événement très récent. On l'oublie trop souvent, peut-être parce que les prisons sont monumentales, que la prison pénale a à peine 2 siècles. C'est une institution donc jeune, première chose, et que d'autre part, cette prison pénale, elle a été d'abord un progrès pour les hommes du XIXe siècle, enfin de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, en ce sens qu'elle venait, vous l'avez dit, d'abord pour rompre avec un régime, disons, autoritaire du supplice. et surtout on décide que de construire une institution carcérale qui aura pour vocation d'incarcérer des condamnés par la justice pour une période donnée, avec cette institution du registre d'écrou, chose absolument fondamentale, et j'insiste sur ce point, puisqu'on est aux archives départementales, et que les deux grandes archives que tout historien voit dès lors qu'il s'intéresse à la question de la prison, c'est le registre d'écrou et les plans de la prison. Et c'est par là que je voulais commencer, c'est-à-dire que l'histoire des prisons, c'est d'abord, donc je l'ai dit, des registres et des crous et du bâti. On a énormément de choses sur le bâti et sur son fonctionnement, sur son entretien. On a beaucoup moins de choses sur ce que vous disiez pour ouvrir le débat, sur l'aspect humain. C'est-à-dire que dans les archives, on a bien des noms, on a bien des dates, on a du mal, évidemment, à avoir des corps. Alors, cette histoire des prisons, de cette institution toute jeune, hein, 2 siècles, ce n'est rien, elle est récente elle aussi. Elle a 30 ans. C'est « Surveiller et punir » de Michel Foucault qui a en partie initié ce mouvement d'intérêt pour l'histoire des prisons. Je reprécise ça parce que c'est très important aussi pour comprendre pourquoi ce soir on est là. À savoir que on commence à reconnaître et à comprendre que la prison, c'est une institution comme les autres, au sens où on pourrait la comparer, par exemple, à l'éducation nationale. Ça a une fonction sociale revendiquée. C'est l'objet de textes de loi, et c'est l'autre grande archive, au fond, pénitentiaire. C'est sur lequel Robert Badinter avait publié ce livre, notamment « La prison républicaine », mais sur lequel il y a eu beaucoup de travaux, c'est-à-dire quel discours social on produit sur la prison. Mais c'est aussi, et c'est là que c'est, à mon sens, complexe, comme objet historique et comme objet contemporain, c'est un objet qui, un, n'a jamais fait l'objet de mobilisation politique depuis 2 siècles, ou à de très rares exceptions, si on a un peu de temps, on en reparlera peut-être. Et deuxièmement, c'est un objet qui, immédiatement, avec sa création, a été critiqué et dont, en somme, on constate l'échec. C'est-à-dire que c'est une institution qui, dès les années 1830, on dit « ça marche pas ». Le fameux discours « la prison, école du crime », c'est très tôt. Alors on cherche des situations alternatives. Par exemple, avec le décret sur la transportation en 1852, bon, avec un projet colonial, hein, il y a des travaux qui maintenant ont montré combien cette articulation entre une politique pénitentiaire et une politique coloniale était très forte. Et puis après, il y a la fameuse loi 1885 sur la récidive, où là aussi, on décide que ce sera plus la prison, mais on va essayer de construire autre chose qui relève aussi de l'enfermement, mais sur des terres coloniales. Bon.
Est-ce que d'un point de vue architectural, d'ailleurs, ces bagnes qui sont construits dans les colonies le sont sur un mode, sur un module ou un modèle qui est différent des prisons métropolitaines ?
Alors, un des modèles, c'est le point que j'allais aborder, c'est-à-dire un autre dispositif que sont les colonies pénitentiaires. On se dit que plutôt que d'envoyer les gamins en prison, on va les mettre au vert, les mettre au travail dans des fermes écoles qui ont été rendues célèbres notamment par Jean Genet. Ça c'est des dispositifs qu'on voit apparaître. Reste que malgré l'échec, malgré un discours critique immédiat, je veux dire un discours qui est à la fois celui des journalistes, mais aussi celui des politiques, mais aussi celui des professionnels de la prison, parce qu'il faut comprendre que avec la naissance de la prison, c'est tout un champ de savoir qui se développe, de savoir dit pénitentiaire, qui fait l'objet de congrès, qui fait l'objet de revues. Malgré tout, on n'abolit pas la prison. Hein ? On continue à en construire.
Et on essaye peut-être d'en construire de nouvelles, et cette recherche théorique aboutit aussi à des prisons qui sont des vues de l'esprit, peut-être aborder un modèle qui est assez classique, pourrait-on dire, de l'architecture carcérale du 19e siècle, c'est celui de Jeremy Bentham.
Oui, alors, effectivement, avec tout ce savoir, et avec, je dirais aussi, un projet philosophique qui va avec, parce qu'il n'y a pas d'architecture sans aussi un certain rapport à la cité, un certain, et du coup une certaine politique. Là, on est dans une situation bien précise au XIXe siècle. 1814, les premières prisons ouvrent. Bon, elles peuvent pas, on ne peut pas construire des établissements, donc on récupère énormément de biens qui appartiennent à qui ? Qui appartenaient au clergé. Les biens du clergé saisis par la Révolution. Ces lieux, on les modifie. Et là, il y a des architectes qui travaillent à ça. Reste qu'avec la critique des prisons, on s'aperçoit que ces établissements ne fonctionnent pas. Que les prisonniers y sont mal, mais surtout qu'ils ne sont pas non plus adaptés à la question du travail. Et puis aussi au fait que ces prisons, pour les courtes peines, c'est compliqué. Ils ne sont pas dans les villes, elles sont à l'extérieur, etc. Donc on décide de construire des prisons, d'autant que nos philosophes, à commencer par Tocqueville, sont allés en Amérique et ont vu les prisons cellulaires, à savoir que chaque détenu soit dans une cellule seule. Et à partir de ce moment-là, toute une réflexion s'ouvre et des prisons cellulaires comme celle de Mazas en 1850, de La Santé en 67 ou de Fresnes en 1898 vont ouvrir sur ce principe cellulaire. Ce principe cellulaire, il est évidemment né du projet benthamien de Panopticon. C'est-à-dire l'idée de célèbre, rendue célèbre par Michel Foucault et Michel Perrault, puisqu'ils avaient republié dans les années 70 le traité de Bentham. Au fond, la figure centrale du livre, c'est ce plan, puisqu'il ne s'agit que d'un plan, d'une tour centrale dans laquelle un gardien pourrait voir du même point l'ensemble des détenus en simplement tournant la tête, puisque chacune des cellules regarderait vers ce point. Bon, ce modèle, Foucault, lui, ne le voit pas seulement dans la prison. Avec un certain nombre d'autres chercheurs, il comprend qu'en fait, ça a été la matrice d'une société disciplinaire. Et il voit dans la prison, cette prison modèle, finalement, de Bentham, la matrice des sociétés de la fin du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle.
Autrement dit, ça n'est pas tant la prison qui est le reflet de notre société, mais c'est plutôt l'inverse, c'est notre société qui s'inspire de nos prisons.
Alors, pour Foucault, la prison est un des éléments, mais il regarde aussi du côté des ateliers, il y a aussi, évidemment, l'hôpital. Et du coup, ça pose un problème intéressant, me semble-t-il, c'est comment, effectivement, soit la prison a été matrice des architectures urbaines, pour réutiliser ce terme de porosité, hein. Qu'est-ce que la prison fait à la ville et qu'est-ce que la ville fait à la prison ?
Et en l'occurrence, qu'est-ce qu'elle fait aussi aux prisonniers, aux détenus ? L'idée de cette conception benthamienne de la prison, c'est de réduire sa volonté, c'est de le transformer en être obéissant, totalement obéissant. Il est en permanence observé par ses gardiens, mais lui ne peut pas voir ses gardiens. C'est donc ce que Michel Foucault appelle la création, le façonnage d'un corps docile.
Oui, c'est cette idée, que, et c'est ce que montre, je crois, l'histoire des prisons depuis deux siècles, c'est cette idée que ce corps docile, il est invisible à l'extérieur. Je crois qu'il faut insister là-dessus. L'architecture pénitentiaire, la première chose, c'est qu'elle cache les corps. Et elle cache les corps non pas seulement au présent, mais aussi à l'avenir. Je pense que c'est très important de comprendre que la prison a été aussi pensée comme une exclusion de l'histoire. Et c'est pas pour rien que, encore une fois, c'est formidable de faire un débat sur l'architecture, mais c'est aussi parce que c'est le monumental qui nous permet de parler de la prison. C'est pas les archives des révoltes. Donc c'est pas seulement un corps docile, c'est un corps invisible. Et c'est ce qui intéressait Foucault. Qu'est-ce que c'est au fond que ce qu'on appelle le vécu de la prison ? Et qu'est-ce que la prison elle-même nous dit de cela ? Et je crois que là, il y a tout un ensemble de documentation, une archive de la prison non pas monument de pierre, non pas monument de papier, mais expérience humaine subie qui existe, mais à travers même les bâtiments. Et c'est une chose qu'il faut réaliser, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de, on y reviendra probablement, de fermer un certain nombre d'établissements dans les centres-villes. Et dans ces établissements, qui vont être pour la plupart détruits, il y a des traces de vie, des traces, des mémoires de gens qui ont vécu là, des toutes petites traces, petit graffiti, un coup de pied dans une porte. Alors, cette mémoire-là, elle est captée en partie par, quand ils sont autorisés à y rentrer, par des artistes, des photographes, qui sont sensibles. Et puis,
est-ce qu'il y a une démarche anthropologique à l'égard de ces traces? Est-ce qu'il y a des relevés par des chercheurs qui, au moment de la destruction d'une vieille centrale, viendraient faire le relevé de ces graffitis en estimant qu'ils sont effectivement, ils font partie d'un patrimoine? Et ça introduit un petit peu la question de, est-ce que ces bâtiments, ces prisons, ces monuments de l'institution peuvent aujourd'hui constituer un patrimoine? Et plus exactement, qu'est-ce qui constitue un patrimoine dans les prisons? Est-ce que ce sont les pierres ou est-ce que c'est la mémoire des prisonniers?
Je dirais que c'est un patrimoine, moi, que j'aime appeler un patrimoine noir, patrimoine négatif, en opposition à un patrimoine doré. Pour nous, en tout cas, historiens, puisque j'en sais représenter historiens ce soir, c'est une vraie tâche que de le faire admettre au même titre que le patrimoine doré. Et il y a là, je crois, un vrai enjeu politique à conserver une mémoire de ce lieu d'oubli. Ce sont des lieux qui ont certes été construits parfois par de très grands architectes, mais où des hommes de rien ont vécu, ont souffert, et c'est quand même un des acquis de l'historiographie de ces 40 dernières années, que de penser que comprendre le passé, c'est aussi le comprendre à travers eux. La prison est intolérable, mais cet intolérable-là, il faut en garder trace.
Et selon ce que l'on garde en trace, c'est souvent de l'écriture. Je crois, Philippe Artière, que vous avez mené un travail particulier sur les écritures en prison. Alors, on va bien sûr en parler dans quelques minutes avec René Frény, qui est écrivain, mais peut-être quelques mots sur ce travail de recherche que vous avez mené sur les écritures en prison.
Bon, pour toutes sortes de raisons, la prison est devenue, au milieu du XIXe siècle, une formidable machine graphomaniaque. Disons que du panoptique benthamien, on est arrivé à un panoptique d'un second type, qui est qu'on s'est mis à faire écrire beaucoup les détenus. Et que ce projet d'écriture, il avait pas besoin d'être beaucoup incité, parce que en prison, l'isolement, les conditions font que il y avait un vrai désir d'écriture. Reste que ces écrits-là disent quelque chose de la réalité de la prison.
Le réseau carcéral,
le réseau carcéral
ne rejette pas l'inassimilable.
Il n'a pas de dehors.
Dans un enfer confus, il n'a pas de dehors.
Il économise tout.
Le système, il n'a pas de dehors. Il économise
la carcération et la
il ne consent pas à perdre, même s'il a tenu à
l'identifier.
Dans cette société dont l'incarcération et l'armature omniprésente,
mais
le délinquant n'est pas hors la loi.
Et de son extension,
il
bien
est,
l'emprisonnement
et même dès le départ, dans la loi, au cœur même de la loi,
a abaissé,
ou du moins
le seuil du
en plein milieu de ces mécanismes qui font passer insensiblement de la discipline
et cela
à la loi, de la déviation à l'infraction. Le délinquant est un produit d'institution.
On va peut-être proposer en effet à Renier Frémy de reprendre sur cette question de l'écriture en prison. À l'instant, Philippe Artière parlait de graphomanie, de désir très fort de l'écriture. Qu'est-ce qui motive ce désir d'écrire? Et puis, c'est écrire quoi? C'est écrire pour s'évader, pour sortir des murs?
Si, depuis 19 ans, je vais dans les prisons, je vais en tout cas dans les prisons du Sud-Est, hein, les Baumettes, la prison de Luynes, etc. C'est parce que j'avais publié un premier roman qui parlait d'un séjour en prison que j'ai fait quand j'avais 19 ans. Si je n'avais pas fait ce séjour de prison, je n'aurais jamais découvert la lecture et l'écriture. Je me suis arrêté au BEPC et je n'ai jamais rien lu de ma jeunesse. Je ne voyais pas les caractères d'imprimerie. Les livres qui sont devenus pour moi un territoire de liberté étaient un territoire de calvaire. Je n'y voyais pas. Et je suis arrivé avec 2 mois de retard à la caserne. À l'époque, nous faisions 16 mois obligatoires. Et comme j'avais 2 mois de retard, je suis passé devant un tribunal militaire et j'ai été condamné à 6 mois de prison. Et dès le 2e jour, dans cette cellule qui était une cellule, je dirais, moyenâgeuse, mais elle avait été construite au début du 19e, l'aumônier de la prison venait, quand il y avait un arrivant comme moi, avec des livres, pour nous proposer des livres. Et je lui ai dit, je n'y vois rien, je n'ai jamais porté de lunettes, je ne lis pas. Et il est revenu une heure après avec une poignée de paires de lunettes que les détenus avaient oubliées, qui étaient plus ou moins cassées, rayées, qui tenaient avec du Chatterton. Et l'une de ces paires de lunettes était à peu près pour moi, en tout cas, elle grossissait tout, et donc les livres. Et j'ai gardé un livre qui était écrit par Jean Giono. Ça m'a plu parce que je savais que Jean Giono était provençal comme moi. J'ai gardé Colline. Et en quelques instants, alors que j'étais un petit lecteur, je savais lire, je n'étais pas complètement illettré, mais je lisais très lentement, je déchiffrais. Et j'ai vu entrer dans ma cellule, c'est pour commencer à répondre à la question, tout ce qu'il y avait dans ce livre. Des villages, des toitures, des arbres, des pins, le chant d'une rivière, le chant d'une fontaine, un chat noir qui traverse un village. Bon, tout ce que nous pouvons voir tous les jours ici chez nous, la vie. Et j'ai continué à lire toute la journée et les jours suivants. Je me suis rendu compte qu'avec les mots, le monde entier rentrait dans ma cellule. Des rivières, la mer, des bateaux, des cargos, des femmes, des chevelures, des regards. Et que on pouvait, par l'imagination et par la lecture, qui excite l'imagination, recréer le monde entier. J'ai demandé à l'aumônier un carnet, un stylo, et j'ai commencé à écrire de courts poèmes. Tous les soirs, j'écrivais un petit poème qui ramenait dans cette cellule tout ce qui n'existait pas. Et j'ai eu la chance que dans la cellule à côté de la mienne, il y avait un prof de philosophie, et je ne savais même pas ce que voulait dire le mot philosophie. Mais ce prof de philo avait trouvé un élève, il s'en contentait, moi j'avais trouvé enfin un professeur, et j'ai eu pendant 6 mois une heure de cours particulier de philosophie. Et je notais tout. Bref, bon, je me suis évadé 6 mois plus tard de cette prison parce qu'on voulait m'envoyer dans un fort, j'avais refusé d'aller chez le coiffeur, on voulait m'envoyer au fort des Thons, le directeur de la prison m'a dit « Vous allez aller au fort des Thons », je suis parti en Corse, à Istanbul, bref. J'ai déserté une seconde fois, mais j'ai déserté cette fois avec un livre de poche dans la poche. Et il y a 40 ans que je me promène partout avec des livres de poche dans mes poches et que je lis où que je sois. Et dès que j'ai publié mon premier roman, le ministère de la Culture m'a demandé d'aller travailler dans les prisons. Donc voilà, vous avez un petit peu le début de ma vie, un enfant qui rate toutes ses études parce qu'il n'y voit pas. Grâce à la prison, je découvre la littérature, la lecture et l'écriture. Et parce que j'ai publié il y a 20 ans un premier roman, je vais faire découvrir aux prisonniers ce que j'ai moi-même découvert en prison.
Alors justement, dans le cadre de ces ateliers d'écriture que vous menez en prison, on imagine bien, et vous venez de l'expliquer à l'instant, qu'il y a ce besoin de faire rentrer le monde, l'amour, la nature, le désir dans cette prison qui en est totalement dépourvue. Mais est-ce que l'on trouve aussi des chroniques de la prison, des récits qui racontent la prison, ce qu'elle est, comment on y vit?
Un atelier d'écriture, c'est... Moi, je commence toujours par un vrai café. J'apporte discrètement un peu de café. On fait chauffer dans une boîte de conserve avec un toto, une résistance, un peu d'eau, et on boit un vrai café. Parce que ça humanise la relation. Et à partir d'un vrai café, de l'odeur du café, du goût du café, on peut parler de tout et commencer à se sentir un peu plus humain. Donc on commence toujours comme ça. Et on écrit tout et n'importe quoi dans un climat de fraternité, de liberté, de la poésie, des romans, des scénarios, des dialogues, et notamment des textes sur la prison, comment on vit en prison. Bien sûr, tout est possible. C'est, dans un premier temps, non pas des textes culturels, mais des textes souvent affectifs. D'ailleurs, c'est ce qu'on citait Genet. Genet disait, pour moi, la littérature, c'est rien d'autre que des mots qui tournent autour d'une émotion. Et pour moi aussi, la littérature n'a jamais été rien d'autre que ça. Des mots qui tournent autour d'une émotion. L'émotion étant le soleil de la littérature. Le soleil qui fait vivre chaque mot.
On comprend bien la nécessité de cette vie dans tous ses aspects en prison. Est-ce qu'aujourd'hui, ces ateliers d'écriture sont toujours aussi soutenus, aussi épaulés par les institutions culturelles ou pas ?
Le nombre des détenus a grossi, on est passé de 58 000 à 64 000. Le nombre des intervenants a diminué. Donc c'est qu'il y a une volonté de construire des prisons, peut-être d'embaucher quelques gardiens, de faire rentrer beaucoup de caméras de surveillance, mais surtout pas de faire rentrer des profs, des instits, des bibliothécaires et des gens comme moi. Parce que c'est pas dans la logique. Il y a eu une grande évolution des prisons en France de 60 à 95. Et là nous sommes en pleine régression. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de caméras de surveillance et de moins en moins d'ateliers de peinture, d'écriture, d'ateliers de parole. Et je pense que la phrase qui a été dite, la prison est l'université du crime, n'a jamais été aussi vraie.
Cette régression que vous évoquez à propos des moyens qui sont accordés aux prisons et notamment aux ateliers d'écriture ou autres qui y sont réalisés par des gens qui viennent de l'extérieur, est-ce qu'il vous semble que c'est délibéré ? Est-ce que ça n'est pas un changement de statut de la prison où l'on finirait par abandonner cette idée que c'est un lieu de réinsertion et où l'on accepterait très volontiers que c'est aujourd'hui le lieu de la punition de la...
Oui, il y a une phrase qui résume bien ce que vous dites sur la prison. Qui n'est que punitive, la prison ne détruit pas le criminel dans l'homme, elle détruit toute trace d'humanité chez le criminel. C'est-à-dire le peu d'humanité qu'un criminel peut avoir en rentrant de prison, la prison va le détruire, parce que c'est le royaume du rapport de force et de la cruauté. Vous ne subsistez en prison que si vous êtes fort et cruel, sinon vous êtes broyé. Et le directeur de la prison, ça je le constate depuis 19 ans, c'est pas le directeur officiel, administratif, comme dans une bibliothèque, non. C'est le caïd, c'est le parrain. J'ai eu Jackie Humbert, qui est un parrain encore vivant. Il va avoir 80 ans, il habite dans la région aixoise. Il est arrivé en 93 dans mon atelier d'écriture. Il parlait peu, il écrivait peu, mais quand il lisait quelques mots, on sentait dans l'atelier d'écriture un silence, un respect. C'était le directeur. C'est dire que pour un jeune qui rentre en prison, dans cette université du crime, où pour survivre, il faut être fort, cruel et avoir des relations, parce que c'est la seule valeur qu'il reconnaît, c'est la puissance. Le caïd leur donnera du travail en sortant, dans une boîte de nuit, dans un bistrot, alors que les patrons ne les prendront pas. Donc cette société n'existe que dans ce rapport de force, dans cette cruauté, dans ce que vous représentez de puissance.
Une intervention de l'écrivain René Frény, notamment cette dernière partie autour de la société carcérale qui suscite quelques réactions de la part du public. On écoute cet échange.
Et moi, j'interviens où vous mettez. Hein. Donc, il n'y a pas la mafia, il n'y a pas ce que vous prétendez, quoi, si vous voulez. Hein.
Mais, qu'est-ce que vous faites, où vous mettez ?
Moi, j'interviens dans le cadre du Conseil général en tant qu'infirmier. Donc, je fais des interventions de prévention. Moi, je trouve que vous donnez une image enfin, de la prison des Baumettes où les détenus eux-mêmes sont vraiment dans une jungle. Ils vivent dans une véritable jungle où il y a le capot, donc, que vous avez cité... le parrain, où il décide tout, il donne du travail, etc. Moi, je dis qu'au Baumettes, au jour d'aujourd'hui, il faut soulever le problème du racisme. Il y a du racisme de la part donc, des surveillants, auxquels donc, on les cloisonne donc, dans les bâtiments, dans certains bâtiments. Il faut savoir que la prévention s'arrête au mur des baumettes, parce que bon, on a des difficultés à y intervenir, donc y faire passer donc des messages de prévention ou d'insertion après la sortie, donc de créer des groupes de personnes qui s'apprêtent à sortir donc de leur incarcération et pour pouvoir donc s'insérer dans la société elle-même. Donc il manque beaucoup de. J'aimerais bien que vous puissiez parler de ça. Je voulais que vous puissiez soulever donc le problème de la maltraitance qu'il y a donc au Baumettes de la part du directeur et des surveillants. Il est vrai que ça existe. Moi, je le vois tous les jours. De la xénophobie, c'est inimaginable ce qu'on peut voir là-bas dedans. Voilà.
Oui. Mais je vois pas trop ce qui nous oppose parce que je m'apprêtais à parler justement du racisme. J'ai vu le film Un prophète que je trouve assez bien fait. Le racisme est énorme, les ségrégations, ne serait-ce qu'entre les délits.
Il n'est pas entre détenus, il est de la part de l'administration elle-même.
Je n'ai pas dit le contraire.
Ça peut partir donc de l'assistance sociale, lorsqu'il y a une personne qui est en situation irrégulière, donc elle ne peut pas téléphoner, donc elle ne peut pas aller s'adresser à la CIMAD où elle intervient. Il y a beaucoup de problèmes qui sont quand même assez gravissimes aujourd'hui. J'aimerais bien que vous en parliez.
Je connais des détenus qui ne sortent même plus de leur cellule pendant la promenade du matin ou pendant la promenade de l'après-midi. Et je pense que la prison, si elle n'est pas uniquement punitive, elle doit être justement une institution de réinsertion. Et qui dit réinsertion dit école, dit atelier où on apprend à parler, à écrire, un atelier où on apprend un métier avec quelques chances de trouver du travail en sortant. C'est pas le cas dans les maisons d'arrêt. Alors, même si le grand banditisme, c'est 3%, ces 3% actuellement tiennent les prisons. Le grand banditisme organise la vie carcérale. Moi, je pense que la prévention dans les prisons, c'est justement ça, des ateliers d'écriture, des professeurs, des instituteurs, des bibliothèques, des ateliers où on apprend un métier. C'est pas le cas.
Ce qui serait important, c'est qu'on puisse mettre donc des ateliers, du personnel donc qui sont à l'extérieur des Baumettes, si vous voulez, donc du personnel de la sécurité sociale, de la NPE, enfin du pôle emploi aujourd'hui, qui puisse donc pouvoir prendre en charge ces personnes-là. Donc s'ils s'apprêtent, c'est vraiment de pouvoir les insérer à l'extérieur. Donc ça veut dire donc pouvoir avoir donc un numéro de sécu pour pouvoir donc avoir une allocation, j'en sais rien, mais c'est ce qui manque. Et il n'y a pas donc ce système mafieux à l'intérieur où on recrute pour aller encore créer donc d'autres systèmes mafieux dans les quartiers, etc. Il n'y a pas. Lorsqu'un jeune ou une personne détenue sort des Baumettes, elle est SDF aujourd'hui si elle n'a pas de famille. Voilà.
Alors on en parlait tout à l'heure en préparant cette rencontre. On assiste aujourd'hui à une évolution presque, on pourrait dire, technologique des prisons, des caméras de surveillance, des dispositifs bien entendu qui sont à la fois destinés à assurer la sécurité, mais on sent bien aussi peut-être parfois à légitimer la diminution du personnel d'encadrement des détenus et aussi ceux qui viennent à l'intérieur de la prison pour apporter un petit peu d'air frais et de possibilités de réinsertion. Ça nous donne l'occasion de nous interroger sur la manière dont aujourd'hui des architectes entreprennent le projet d'une nouvelle prison. On va peut-être tout de suite demander à Raphaël Papadia, je le rappelle, qui représente l'agence Architecture Studio, qu'est-ce qui l'a motivé, alors qu'on se rend bien compte et au cours de cette discussion que c'est un sujet un petit peu épineux, que évidemment c'est pas très simple à traiter. Alors, donc, qu'est-ce qui peut motiver un architecte à proposer un projet de prison?
D'abord, un petit préambule. Architecture Studio, c'est une agence parisienne qui s'est occupée d'une variété très grande de programmes, très complexe, le Parlement européen, l'Institut du monde arabe, et hôpitaux, théâtre. Donc ce n'est pas une agence spécialisée en prison. Donc Architecture Studio a commencé à s'occuper des prisons dans un moment historique très précis. C'était à la fin des années 90. L'État, il a lancé une série de concours sur la base d'un programme dit 4000, pour 4000 places, nouveaux places de pour les prisonniers, disons. Et ce programme a été bâti sur la base d'un rapport qui avait fait une analyse très très précis et très disons pertinent de l'expérience du programme précédent, que c'était le programme 13000. C'était un programme dans les années 80 qui a donné vie à des prisons pour 13000 places de détention. Donc les résultats de cet rapport ont fait ressortir deux sujets très importants. L'exigence de humaniser la détention et l'exigence de améliorer les conditions de qui travaille, les conditions des surveillants. Donc à nous, ça nous semblait une occasion pour traiter un thème compliqué. On a vu qu'il y avait la possibilité de traiter les thèmes de la prison, de chercher le valeur ajoutée de l'architecture. Donc, ça a été une...
Avec des contraintes, j'imagine, avec un cahier des charges qui est quand même très sévère.
Oui. Nous, on a essayé d'aller au-delà de cette cahier des charges qui est très compliqué. L'organisation d'une prison, c'est très complexe. Mais l'exigence très forte pour un architecte, c'est d'aller au-delà de ça et chercher de trouver quelle c'est la valeur rajoutée, disons, de l'architecture. Donc, nous avons fait un stage, par exemple, avant de commencer, après avoir gagné le concours, pour comprendre les premières personnes l'expérience de la privation de la liberté, pour accompagner les surveillants.
Vous avez rencontré des détenus?
On a rencontré des détenus. On a compris que la privation de la liberté change notre univers perceptif. Donc là-dedans, il y avait de la matière pour l'architecture, dans le sens que nous, on a essayé de travailler pour créer un univers sensoriel qui puisse stimuler les sens. Et chose qui s'est... quelque chose de primaire à l'intérieur d'un bâtiment de détention.
C'est-à-dire travailler sur la lumière, sur les couleurs,
travailler sur
le bruit.
Lumière, sur les couleurs, sur les jeux des plaines et des vides, et aussi sur le sens même de certains espaces. Par exemple, la prison, c'est un lieu où des négations de l'espace public. Donc nous, on a essayé de travailler avec certains espaces pour avoir cette échelle publique en filigrane dans cet espace. Donc,
en filigrane, ou est-ce qu'il y a réellement un espace dans la prison qu'on pourrait dire une place publique ou un agora de la prison, un endroit où on se croise, où on se parle?
La prison, c'est un espace qui a ses règles et structuré avec des règles très précises. Peu d'espaces sont des espaces publics du dialogue, malheureusement. Nous, on a essayé, par contre, de créer des contrastes sensoriels avec plusieurs, à travers la proportion, le changement de perception des lieux, qui fait que on puisse avoir une stimulation de notre sens.
C'est-à-dire qu'au fond, on peut travailler sur le confort du prisonnier, du détenu, mais on peut difficilement remettre en cause ce qui est la structure fondamentale d'une prison, et entre autres, notamment l'isolement, dans une certaine mesure, des détenus.
Oui, disons que le concept de confort, c'est un concept aussi fondamental, que ce soit pour le détenu et que ce soit pour pour les surveillantes. Effectivement, nous, on a pu travailler sur l'ergonomie des espaces. Donc, en général, une prison occupe environ 10 hectares de territoire. il se présente comme une macro-architecture qui a un impact très fort sur le territoire. Alors, cet impact sur le territoire donne aussi une dimension symbolique à cet lieu. Et nous, on n'a pas essayé de cacher cette dimension symbolique, on l'a assumée. Par contre, on a essayé de travailler sur l'intégration de ce gros bâtiment dans les paysages, donc les toitures, l'ondulation des toitures, a essayé de s'intégrer au paysage collinaire environnant.
Et comment est-ce que les détenus perçoivent ce paysage ? On voit que la prison est insérée dans le paysage, mais voilà. Comment est-ce que le paysage rentre dans la prison ?
On a essayé de travailler sur et disposer les bâtiments sur la diagonale de cette carré. Ça crée une dynamique et la possibilité de percevoir des paysages lointains. Ça nous semblait fondamental pouvoir casser cet aspect claustrophobique qui est présent dans une prison. Et donc, on a essayé, à travers des cadrages, d'essayer de faire entrer les paysages extérieurs à l'intérieur du bâtiment carcéral. On a essayé de travailler sur l'éclairage nocturne et pour apaiser la vie interne dans les cellules des détenus et pour donner un aspect plus doux dans l'environnement de la présence de la prison au cours de la nuit. On a travaillé l'ergonomie de la cellule pour que ce soit un espace plus... où on respecte la privacy du détenu. Et dans certains autres espaces, comme des espaces, ça c'est la nef principale de distribution, on a essayé de donner cette échelle, entre guillemets, urbain, mais d'un point de vue que perceptive. Ça ressemble à nos dents, mais aussi ce changement de perception, ça donne un rythme au cours de la journée à un détenu. On a pensé que c'est très important aussi le travail de la lumière, du changement de la lumière au cours de la journée à travers la couleur. La couleur elle a une valeur très importante à l'intérieur d'une prison, on a pensé, parce que sa réflexion change par rapport au changement de la lumière du jour. Et ça donne un rythme et ça casse cet état de humiliation de la perception, on va dire, de la perception sensorielle.
Est-ce que le cahier des charges vous a autorisé à développer dans ce nouveau centre pénitentiaire des espaces naturels et peut-être même tout particulièrement des espaces que les détenus puissent cultiver ?
On n'a pas intégré ce type de fonction. Il y a eu une discussion pour faire ça, mais ce n'est pas quelque chose acté partout. Par contre, nous, on a fait un travail sur les parloirs et sur la dramatisation de cet espace, et pour les détenus, et pour les familles qui viennent à visiter les détenus. Ce que nous, on fait dans notre pratique d'architecte pour une prison, on essaie de créer un instrument qui pense aussi à l'avenir du détenu. Après, l'usage de cet instrument, c'est quelque chose qui est lié à la politique, à la société. Notre engagement a été de ne pas refuser ce thème, parce que nous semble que c'est très important de réfléchir à ce thème et mettre au centre de ce thème l'homme. Et je pense que le rôle de l'architecte, pour n'importe quelle fonction, c'est ça.
Merci Raphaël. Je te propose peut-être, si Philippe, tu veux nous rejoindre, qu'on conclue cette rencontre avec peut-être une question à faire circuler entre nous, mais ensuite à partager volontiers avec vous et avec toutes les autres questions que vous aurez souhaité nous poser, d'ailleurs, enfin poser aux intervenants. L'architecte Jean Nouvel a évoqué l'idée que le futur de l'architecture ne serait pas architectural. Est-ce qu'on pourrait, de la même manière, imaginer que le futur de la prison ne soit pas carcéral ? Et je pense notamment, peut-être pour commencer, Philippe Artière, et en écho à un livre dont vous êtes l'auteur, paru en 2004 et qui s'intitule « Gouverner enfermé, un modèle indépassable, point d'interrogation ».
Vous savez qu'on est maintenant sur des gouvernances internationales, et notamment avec des grands organismes internationaux, donc on doit produire des bonnes gouvernances en matière de santé, en matière de justice et en matière pénitentiaire. Alors, et ce titre, un modèle indépassable, c'était au fond, qu'est-ce qu'une prison tolérable ? Est-ce que finalement l'architecture peut neutraliser tout ce que vous avez décrit, toute cette réalité carcérale, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une bonne prison ? Et moi, en historien, je dirais il n'y aura jamais de bonne prison. Puisque, précisément, l'histoire montre que la prison est un échec. Donc, il y aura une bonne prison, comme vous l'avez un peu dit, pour le voisinage, c'est-à-dire pas trop visible, que ça abîme pas la carte postale. Il y aura une bonne prison pour l'ensemble. C'est pas négligeable. Monsieur est parti tout à l'heure, mais des intervenants. Mine de rien, une prison, c'est de l'emploi. Aujourd'hui, le ministère de la Justice a recruté énormément de gardiens. Et là, du coup, est-ce que c'est voilà une bonne prison ? C'est une prison qui produit de l'emploi ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'une prison ? Non, mais je pense, est-ce une prison tolérable ? Une bonne prison, c'est une prison qui va être, comme on fait des placements, éthique. Une prison éthique, c'est-à-dire une prison qui soit pas raciste, qui soit écologique. Qu'est-ce que c'est ? Et je trouve que c'est une vraie question démocratique.
Peut-être on laisse répondre Raphaël quelques instants. On passe ensuite la parole à René. Raphaël.
Ah oui. Non, pourquoi pas trouver des solutions alternatives à la prison ? Il n'existe aucune prison idéale. Je suis absolument d'accord. Par un processus démocratique, on fait recours, on a décidé, la société a décidé de faire recours à la peine détentive. Si on fait une erreur, on va en détention. Donc, nous, on s'est dit, on assume, on prend notre responsabilité d'architecte. Existe ça. Pour nous, une bonne prison n'existe pas, mais il existe une bonne démarche. Donc, ce qu'on a essayé, c'est de dire, la peine, c'est la limitation de la liberté. Et rien d'autre. Essayons d'arriver à ça. C'est très compliqué. On a un suivi de prisons qu'on a dessinées, par exemple, pour comprendre qu'est-ce que ça a marché, qu'est-ce que ça a marché, qu'est-ce que ça n'a pas marché. Et souvent, c'est lié aussi à à l'usage qu'a fait le directeur. Il y a des prisons où avec des directeurs très brillants ils ont pu créer un univers qualitatif, entre guillemets, de l'univers carcéral et d'autres que, très décevants, on va dire.
René, sur cette question, existe-t-il des prisons, de bonnes prisons ?
Il peut pas en exister. C'est vrai que quand je vois ces prisons à mon âge, si on me mettait en prison, je préférerais aller dans une prison comme ça avec une douche, avec un cabinet. Quand je vois au Beaumet, au bâtiment A, au bâtiment B, ils sont trois en cellule. Le matin, ils attendent que certains descendent dans la cour pour faire leurs besoins. Parce que vous savez, quand vous êtes trois ou quatre dans 9 mètres carrés et que vous faites vos besoins successivement, ça sent pas la lavande, hein. Et donc, quand vous tombez en prison pour la première fois à 40 ou 50 ans, et que vous êtes obligé d'aller aux toilettes devant les autres, il y a des murets de 1 mètre de haut, on vous voit faire vos besoins, il y a des gens qui sont hospitalisés tous les jours avec des occlusions intestinales, parce qu'ils n'osent pas aller au cabinet devant les autres. C'est ça la réalité fondamentale de 90% des prisons aujourd'hui. Alors là, c'est vrai que j'ai vu peut-être presque un bâtiment de Le Corbusier, le bâtiment du Fada, avec des couleurs, de la lumière, mais ça, c'est très futuriste. Qu'est-ce qu'on y met ensuite dedans ? Quand on regarde les statistiques des suicides, il y a autant de suicides dans les prisons modernes que dans les vieilles prisons. Parce que les détenus me disent, au Beaumet, quand on tape à la porte, il y a un gardien dans le couloir. À la prison de Luynes, il y a une caméra. Eh bien, quand tu es mal, tu peux insulter un gardien, tu peux pas insulter une caméra. Donc tu t'accroches, tu te pends. Parce qu'une caméra, ça ne répond pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a après cette lumière, après ces couleurs? C'est bien que les architectes pensent à ça. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, c'est bien les prisons modernes. Il faut une douche, il faut un cabinet. Mais il faut avant tout une humanité. Quel est le programme humain dans les prisons? Il est en régression. Et ce n'est pas parce qu'on mettra du rouge, de l'or ou du vert sur les murs. Si on est gardé par des caméras, on ne peut pas insulter une caméra. On ne parle pas à une caméra. Ce sont des prisons où on se suicidera encore plus. Il faut des gardiens formés pour parler à ces gens-là. Il faut des professeurs. Il faut des valeurs humaines. Il faut des gardiens femmes aussi pour que ces gens-là aient un visage humain dans la détention. Et surtout leur apprendre à parler, leur apprendre un métier. C'est ça la réinsertion. Sinon, ça restera l'université du crime.
Merci René Frény. Est-ce que vous avez des questions?
Bonjour. Donc, je voulais réagir à une petite remarque qui a été faite. La personne est partie, donc les ateliers, qu'est-ce qui se fait en prison? Moi, en ma qualité de responsable du Génépi, je voudrais en parler. Vous devez connaître M. René Frény. C'est le groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées. Et donc, c'est la mise en place d'ateliers hebdomadaires pour les détenus. Moi, je voulais revenir donc sur ce que M. Raphaël Papadia donc relevait sur le paradoxe de la prison comme espace public, mais il me semble qu'on va vers un espace de plus en plus privatisé. Et donc cet aspect privatisé pose de graves problèmes au niveau humain, parce que comme vous le disiez, M. Frény, on va vers l'informatisation des données, vers le manque de personnel, donc vers le manque d'humanité. Pour réduire les coûts, ça se fait souvent au détriment de la relation humaine. Or, cette privatisation, c'est quand même une des nouvelles formes de l'action publique. Donc je voulais vous demander, M. Papadia, qui a financé votre projet? Et pensez-vous que, justement, donc les projets à l'heure actuelle, puisque vous êtes dans le monde de la construction, en tout cas pour les appels d'offres pour les prisons, c'est de plus en plus vers des partenaires privés que l'on se tourne, et ce qui pose à mon sens un grave problème, enfin au sens éthique.
Alors dans les cadres de cette prison, on n'est pas dans cet cadre du partenariat privé. Effectivement, et c'est une période où il y a un questionnement par rapport à ça. Effectivement, cet système a montré ses défauts. Dans ces cas, les financements ont été faits directement par le ministère de la Justice, et on rentre après dans un cas de gestion traditionnelle, comme toujours, dans le sens où nous on livre le bâtiment au ministère de la Justice et à plus précisément à l'administration pénitentiaire.
Si je peux me permettre, juste Monsieur donc Philippe Arthiez, vous qui êtes spécialiste sur gouverner donc le monde carcéral, est-ce que vous pensez qu'on va vers une privatisation donc de la construction carcérale et donc de la gestion pendant une dizaine d'années, si je crois?
Je crois qu'il faut vraiment distinguer ce qui relève de la construction, et on en parlait d'un certain nombre de services, c'est des services, c'est-à-dire la restauration et notamment aussi tout ce qui est linge, de la surveillance. La surveillance, il n'a jamais été question de la privatiser. Je suis un peu comme vous, très agacé par la privatisation d'un certain nombre de choses. Bon. En même temps, nos prisons sont des prisons qui sont chaque année, chaque deux ans, condamnées par le Conseil de l'Europe pour leur insalubrité, pour leur vétusté, etc. On ne peut pas, d'un côté, trouver que nos prisons sont vétustes, etc., et s'insurger chaque fois qu'on construit des prisons dans les modalités qui sont nos modalités contemporaines. Nous vivons dans un monde libéral. Je regrette, mais c'est comme ça. Et que les prisons deviennent un enjeu, ça me paraît intéressant.
Donc, est-ce que c'est ce monde-là, effectivement, libéral dans lequel on vit, que l'on veut voir à tout bout de champ, partout, et seulement celui-là? On est un certain nombre de citoyens à estimer que non. C'est bien pour ça, effectivement, que depuis 25 ans, 27 ans, 30 ans, et peut-être encore pour 30 ans, on discute.
Pierre. Non, je voulais juste qu'il n'y ait pas de malentendu sur ce que j'ai dit. Non pas parce que je ne l'assumerai pas, mais parce qu'il me semble que ce que je disais, c'était que ce sur quoi je voulais insister, c'est que cette prison libérale, la société française, dans sa large majorité, ne s'élève pas contre. Et ce qui me pose problème, c'est comment mobiliser aujourd'hui, en dehors de corporations et de professionnels, sur cette question-là. Et ce que je voulais souligner, et que j'ai essayé de souligner tout au long du débat, c'est que la prison est malheureusement en dehors du champ politique. Faisons en sorte de le faire entrer dans le champ politique. Exigeons de nos députés qu'ils aillent dans les prisons. Nous avons des élus et mettons-les devant leurs responsabilités face à nos établissements. Et c'est ça que je voulais dire. Et là, c'est juste un point de vue historique, c'est tout. Et autrement, je partage tout à fait votre point de vue. Évidemment qu'il y a un vrai risque à la privatisation et à la construction d'une prison qui serait où il y aurait des usagers. Les prisonniers ne sont pas des usagers et ils ne sont pas des clients. Encore moins des clients.
Merci beaucoup à tous de votre attention. Avant que vous sortiez, je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur la table de livres qui vous attend et vous trouverez notamment la plupart des romans de René Frény. Je vous invite aussi à consulter deux sites internet pour peut-être prolonger cette réflexion. Le premier, c'est Ban Public, www.prison.eu.org. Et le second, c'est l'Observatoire international des prisons, www.oip.org. Merci à tous d'être venus.
Architecture carcérale, cette rencontre publique était enregistrée le 1er décembre 2009 aux archives et bibliothèques du département, avec pour intervenants Philippe Artière, historien, René Frény, écrivain, et Raffaele Papadia, architecte. Tout le programme d'exposition et de conférences des archives départementales est sur le site www.archives13.fr.